C'est toujours le mag sur Maximum jusque midi. Comme promis, on entame notre séquence hebdomadaire intitulée « C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça ». Christian Quino nous présente chaque semaine, accompagné de Guy Van den Norgate, journaliste pour Trends Tendance, deux bonnes nouvelles au sein des PME de la région, deux entreprises qui fonctionnent bien. Christian, je te laisse nous présenter tes invités d'aujourd'hui.
Élise, en tout ou grand merci, 8e capsule, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Je suis vraiment très heureux de retrouver tous les dimanches. 10h30 du mat avec Guy Van den Norgate, content de te soit là, tu es venu de Bruxelles, tu es toujours avec moi, ça me fait plaisir. Deux invités aujourd'hui, François Genet, Discar, on va parler voiture, et puis alors après, un homme bien trop discret, c'est Yves Goutals, photographe, et donc là aussi on va avoir des belles choses à vous expliquer. Monsieur Genet, très heureux de vous retrouver, bonjour.
Oui, bonjour Christian, bonjour Guy, bonjour à tous.
C'est le compte rendu un petit peu du Ezel qui a fermé ses portes. On parle de positivisme, d'abord parce qu'on a passé le cap du 2 millions de visiteurs au Ezel.
Oui, tout à fait.
C'est quand même pas négligeable. Discar, c'est pas un secret, c'est BMW, c'est Mini. C'est une marque qui a réussi à se composer pour aller concurrencer une marque qu'on ne citera pas à l'étoile, pour aller se battre sur d'autres, évidemment. Comment ça s'est passé en fait? Quel est le compte rendu suite au Ezel? Puisque je ne parle pas spécialement de vous, on peut se rendre compte que dans les quotidiens, c'est des prolongations des conditions du Ezel. C'est vrai que c'est assez sympa. Toujours est-il qu'à espérer que ce ne soit pas tronqué, mais comment ça se passe chez vous?
Ça se passe très bien en fait. Donc le Salon de l'Auto est un événement immanquable, je pense, pour beaucoup de Belges. Donc ça ne l'a pas démenti cette année avec la forte affluence et les publics qui a bien été présents. C'est clair qu'il y a beaucoup de changements au niveau du secteur automobile à l'heure actuelle, notamment au niveau des motorisations. On parle beaucoup donc d'hybride, de l'essence, du diesel. Donc on sait qu'il y a eu un changement dans la défiscalisation des véhicules hybrides donc depuis le 1er janvier. Au niveau du diesel, on parle beaucoup de la pollution engendrée par le diesel et de son remplacement, de plus en plus de véhicules essence sur nos routes. Mais le Salon de l'Auto a vraiment été une bonne période, je pense, pour le secteur de l'automobile en particulier pour Discar.
Donc évidemment, on va parler évidemment de remise sur le véhicule, on va évidemment parler de valeur résiduelle de ces mêmes véhicules. Le marché fleet est un marché extrêmement important pour votre marque comme pour les autres en fait.
Oui, tout à fait. Donc en termes de remise, le Salon de l'Auto a apporté les remises, je vais dire, courantes de chaque année. En début d'année, on a des remises, des actions salon bien particulières et plutôt pour un public particulier. Ces actions sont toujours valables ici jusqu'à la fin du mois de février. En termes de valeur résiduelle, oui, il y a aussi des changements. On voit que la motorisation essence obtient une valeur résiduelle plus importante que par le passé. Par le passé, on sait bien que le diesel prédominait tout. Et aujourd'hui, l'essence est revenue dans la course.
Et si on était justement dans une répartition, on est à quoi, 50-50 maintenant?
C'est ça, oui. Plus ou moins, oui. Sur ce salon-ci, en fait, on a vendu plus ou moins 50% de véhicules essence, ce qui est vraiment un grand changement par rapport au passé où on était dans des propensions entre 20-80 plutôt pour le moteur diesel.
Alors Guy Van den Norgate, résident bruxellois, c'est vrai que la pollution est extrêmement importante dans la capitale. Comment est-ce que tu vois ça, toi?
Je vois ça avec l'évolution de la voiture électrique où j'ai l'impression que tous les constructeurs proposent un modèle, deux modèles, trois modèles. Mais est-ce qu'il y a de la part des Belges une envie de voiture électrique aujourd'hui?
Je vais dire la voiture électrique attire par l'innovation en fait. Rouler en voiture électrique comme la BMW i3 est vraiment un changement même dans la conduite. Vous avez un frein moteur qui n'existe pas ou qui est beaucoup moins important sur les voitures traditionnelles, qui fait que vous n'avez quasiment pas besoin de toucher la pédale de frein pour ralentir le véhicule. Le véhicule, en lâchant la pédale de gaz, va ralentir automatiquement et va utiliser cette énergie, récupérer cette énergie pour recharger les batteries. Donc il y a vraiment le côté plutôt innovant qui attire le public. Par rapport à l'utilisation, c'est ça en fait la grosse différence. On sait bien qu'au jour d'aujourd'hui, les batteries ont très fortement évolué. L'autonomie des batteries est beaucoup plus importante que par le passé. On peut rouler avec une BMW i3 plus de 200 km sans problème. Mais ça reste toujours un frein, je vais dire, au développement et à la vente de ce type de véhicule qui, pour beaucoup de trajets, pour beaucoup de personnes, pourrait tout à fait être un bon moyen de transport.
Quelle est la réaction pour le moment des patrons d'entreprise sur ce secteur-là?
Je vais dire, il y a eu un peu un ralentissement ici en début d'année à cause justement de cette notion de défiscalisation. Donc au niveau de l'hybride, maintenant, ça dépend un peu du type d'entreprise. Il y a aussi des entreprises plutôt de la communication, des entreprises plus innovants, tous des entreprises aussi dans l'environnement qui cherchent aussi à travailler leur image de marque et favorisent ce type de véhicule justement.
Le chef de véhicule dans
exactement, leur, dans exactement. D'autres entreprises aussi analysent beaucoup plus leurs besoins en termes de trajets et voient que ce sont des sociétés situées en centre-ville avec des trajets qui sont beaucoup plus courts et plus adaptés aux véhicules électriques.
J'ai l'impression que le frein, c'est quoi ? C'est l'autonomie ou c'est le prix ? La valeur résiduelle pour le véhicule électrique ?
Un peu des trois, je vais dire. Donc l'autonomie, bien sûr, en fait, si même on vous annonce une autonomie de 200-300 km, vous avez un peu la sensation, et c'est ce qu'un client m'a fait comme réflexion, c'est j'ai un peu la sensation de tout le temps rouler sur la réserve de ma voiture thermique. C'est vrai, mais c'est un autre principe. L'autonomie est bien calculée, vous n'allez pas tomber en panne d'un moment à l'autre. Le prix, c'est clair que ces véhicules sont innovants, les coûts de recherche et développement pour développer ces nouveaux véhicules sont très importants, donc les constructeurs doivent les reporter malheureusement sur le prix de vente, donc ce qui signifie que le prix d'un véhicule électrique ou hybride reste plus important qu'un véhicule conventionnel. Et alors finalement, c'est aussi la fiscalité, voilà, c'est le principe qui change.
Alors j'aime bien les chiffres, le groupe Discar, ça représente la vente de combien de véhicules par an ?
On parle pour l'année 2017 de plus de 1500 véhicules mini, BMW et confondus.
Et Target 2018, ce sera ?
On a plus de 1800 véhicules, oui.
Bien, moi je vous invite tout simplement à les faire en essai, pourquoi pas. Vous visitez le site internet Discar, prenez un rendez-vous, faire un peu en essai pour voir ce qui se passe en fait sous le capot. D'ailleurs, ça tente à disparaître d'ailleurs, hein. Les moteurs sont en train de disparaître. Il y a des changements, on va vers où, Guy ? Difficile à dire, est-ce qu'on est prêt ?
Je ne sais pas non plus, oui, c'est vrai, j'ai discuté avec quelqu'un qui n'est pas si âgé que ça, il n'a pas 60 ans, qui a commencé dans un garage tout seul. Aujourd'hui, c'est un groupe qui emploie plus de 100 personnes et qui me dit, moi, je suis un bagnolard, je suis encore quelqu'un qui a connu la mécanique. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de mécanique dans un garage et c'est vrai que c'est un changement. Et demain, peut-être qu'on aura une voiture, on n'aura même plus besoin de la conduire.
Voilà, ça, je ne sais pas si c'est positif, hein, parce que moi, j'aime encore bien tenir le volant, pousser sur une pédale, j'aime bien donner, recevoir une sensation. Bref, on n'a pas tous les mêmes attentes, évidemment, au niveau de nos véhicules. Eh bien voilà, on se retrouve juste après la pause musicale. On va parler avec un homme que j'aime évidemment beaucoup, c'est Yves Goutals, un photographe d'exception. À tout à l'heure. Deuxième partie de notre capsule, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, avec Guy Van Allergain. Deuxième invité ce dimanche. Yves Goutals, photographe. Alors, c'est un homme qui est sur le métier depuis 33 ans. Yves, bonjour, content
bonjour
de te retrouver.
Christian, bonjour Guy.
Explique-nous un petit peu pourquoi la photo et comment ça a débarqué, en fait.
Pourquoi la photo ? Ça, je ne sais pas. Mais la photo est une histoire qui est dans la famille depuis très longtemps. Pendant les années 60, j'avais un cousin de mon père qui avait le plus grand studio de Belgique en photo publicitaire, qui vient de décéder au début de l'année. Mais ça fait partie de. Dans la famille, il y a déjà eu de grands noms dans la photographie.
On te connaît quand même énormément sur toutes tes prestations, qu'ils soient dans différents cercles d'entreprises ici en Belgique, et tu as même passé des frontières en fait.
Entre autres, j'ai eu des mariages en France, j'ai eu. Pour l'instant, c'est vrai qu'on me voit surtout dans tous les cercles ici en Wallonie et à Bruxelles. Mais je suis quelqu'un d'assez polyvalent.
Alors évidemment, sur tes dizaines d'années de carrière, je m'excuse de rappeler les chiffres, évidemment, au niveau de la technologie, ça a fortement changé.
Ça a fortement changé, mais heureusement, je dis que j'ai encore eu le privilège d'avoir été formé en argentique. J'ai donné cours aussi pendant 16 ans en promotion sociale. Et la formation en argentique, pour moi, est un plus dans l'apprentissage de la photo, parce qu'il y a la sanction financière. De un qui oblige à réfléchir avant d'appuyer sur le bouton. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient difficile de rater une photo, mais quand on a un savoir-faire, il y a la réécriture par après, que ce soit avec un programme informatique, et c'est de la mise en lumière, c'est de la mise en œuvre, c'est de la calligraphie de son travail de prise de vue.
Alors si on pouvait te demander le plus petit travail que tu aies réalisé, c'était quoi ?
Alors, j'ai réfléchi à cette histoire-là. C'est pour une campagne publicitaire pour un insecticide où j'ai dû photographier des insectes, dont une puce, qu'on a dû pouvoir remettre sur des trophées, comme des trophées de chasse. C'était du travail de studio.
On parle du plus petit, alors le plus gros, évidemment.
Le plus gros sont des bâtiments industriels, plusieurs dizaines de terrains de football en surface. des centres de tri.
Une question que je me pose par rapport à l'évolution de la photo, parce que c'est pas si vieux que ça l'argentique, hein. C'est pas la préhistoire.
Non, une vingtaine d'années.
Une vingtaine d'années. Mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui dans les jeunes photographes, des photographes qui passent quand même par l'argentique?
Il y a même presque un renouveau pour le noir et blanc, et même des procédés encore plus anciens. Il y a des personnes qui font de l'autochrone, qui se spécialisent dans les procédés vraiment anciens, même la gamme bichromatée. Mais c'est plutôt dans le mouvement artistique.
Comment est-ce qu'on suit l'évolution? Parce qu'une technologie tout à fait incroyable, on parlait de 4 millions de pixels, 5 millions de pixels, on en est à 24 millions de pixels.
Ça s'arrête. On est à 100 millions de pixels.
On est à 100 millions
en
maintenant.
En résolution, mais il faut avoir un gros portefeuille.
D'accord, et puis savoir s'en servir, évidemment.
Voilà, mais surtout avoir le débouché, parce qu'un boîtier à 100 millions de pixels, on tombe juste au boîtier plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Alors justement, au niveau, on parle des millions de pixels, si je reprenais les anciens appareils photo de papa, Yashica et compagnie, si on devait les convertir, ça donnerait quoi en fait? Au niveau de sa qualité d'image, vous pouvez chiffrer cette qualité d'image?
Faut-il le faire? Non. Moi je pense que ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, c'est celui qui manipule l'appareil qui fait la photo. Moi j'ai fait de très belles photos avec mon smartphone que j'ai sorti en A2, et je connais des personnes qui font des photos et qui font uniquement des expositions en ne faisant que des photos avec leur smartphone. Il faut trouver le bon appareil pour le bon emploi, pour la bonne utilisation.
Est-ce que ce n'est pas une balle dans le pied, justement, vous, professionnel de la photo, avec tous ces appareils pseudo de photos qui partent de nos téléphones, en fait?
Moi, je veux dire que c'est un double tranchant, oui, mais ça oblige le professionnel à montrer sa valeur ajoutée par rapport au travail de l'amateur qui va prendre l'appareil, qui va déclencher, et puis... Et puis voilà, donc moi, ma valeur ajoutée, c'est la mise au net que je fais par après, après mes prises de vue.
Est-ce qu'il y a beaucoup plus de travail aujourd'hui avec les nouvelles technologies, après la prise de vue qu'il y en avait avant? Parce qu'avant, la photo était prise, elle était prise, on pouvait encore un peu corriger au tirage, mais...
Aujourd'hui, on peut optimiser sa chaîne graphique. Tout dépend de la sensibilité du photographe qui est derrière. J'aime travailler à l'ordinateur, j'aime pas travailler à l'ordinateur. C'est le photographe qui, dans le temps noir et blanc, j'aime faire mes développements, mes tirages noir et blanc, ou j'aime pas le faire, ou j'apporte tout au labo. Robert Doisneau a fait d'excellents tirages, mais il y a des tirages qui n'existent que grâce au savoir-faire du tireur par derrière. Parce que son négatif, au départ, on l'aurait déposé chez le photographe du coin, il aurait dit négatif inutilisable. Mais chez un maître du tirage, cette photo est sensationnelle.
Voilà encore des rubriques qu'on ne parle pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne connaît pas. Il y a encore de la diversité au niveau du métier, c'est assez intéressant et appréciable aussi. Maintenant, évidemment, tout dépend.
Il y a autant de métiers dans la photo qu'il y a de photographes. Chaque photographe doit pouvoir trouver ses centres d'intérêt, son réseau, et c'est ça qui va faire sa force.
Alors on termine grosso modo, le site internet pour retrouver Yves Goutals, ce serait
goutalsyves.be.
Alors si je pouvais, et que je le dis chaque fois, la concurrence de Yves, c'est pourquoi chez Yves Goutals et pas ailleurs?
Moi, c'est d'abord, c'est la technique au service de l'ambiance.
Je crois que c'est plutôt encourageant d'entendre qu'il y a encore du boulot pour des photographes qui, justement, comme dit Goutals,
mettent je suis rassuré par ça.
Leur savoir-faire avant la technique.
Eh bien voilà, je suis très heureux d'avoir partagé ce dimanche matin avec vous, enfin tout du moins cette petite capsule du dimanche. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, avec mon ami Guy Van Allorguette. On vous retrouvera évidemment dimanche prochain. Réagissez, bougez, il y a du positivisme en Wallonie et nous essaierons toujours de tenir la barre avec Guy, si tu es toujours d'accord, d'être avec moi, de continuer dans ce sens-là pour donner exemple aux entreprises ou aux petits indépendants qui réussissent. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.
Merci Christian Quinault qui nous présentait sa séquence C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Petite pause musicale avant d'entamer la prochaine partie du MAG de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous parlera d'un nouveau médecin généraliste qui s'est installé à Amay début du mois. Une aubaine pour la commune qui, comme beaucoup de communes de Wallonie, est en pénurie de médecins.